Le journal, présenté par Hugo Charpentier.
Bonjour à tous. C'est une victoire pour Donald Trump. La Cour suprême autorise la Maison-Blanche à se servir directement dans les caisses du Pentagone pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. Une décision saluée sur Twitter par le président américain. Mais Donald Trump heureux peut aussi cacher un Donald Trump en colère. Le président américain monte au créneau contre la France et sa taxe sur les géants américains du numérique. Il menace de rétorsion le vin français, l'un des produits d'exportation tricolore les plus emblématiques. La Tunisie pleure son président. Les obsèques de Béji Caïd Essebsi en ce moment même à Tunis, en présence notamment d'Emmanuel Macron. Et puis à Moscou, les opposants appellent à la mobilisation avec un rassemblement devant la mairie. Ils protestent contre l'éviction de leur candidat aux élections locales. C'est l'une des promesses phares de Donald Trump, la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Un projet controversé qu'il a du mal à concrétiser, mais qui vient pourtant de franchir un cap. La Cour suprême américaine autorise à l'administration Trump d'utiliser 2,5 milliards de dollars de fonds venus du Pentagone, le siège militaire. Une décision saluée par le président des États-Unis à New York, Loïc Loury.
La décision de la Cour suprême annule celle d'un juge fédéral d'Oakland près de San Francisco, ainsi que l'appel d'une cour californienne. Elle ne dit pas pour autant que Donald Trump a le droit de réaffecter les fonds du Pentagone à la construction du mur. Les 5 juges républicains de la Cour considèrent simplement que les associations qui ont attaqué l'administration Trump en justice sur ce sujet n'ont pas l'autorité pour le faire. Leurs 4 confrères démocrates en minorité ne partagent pas cet avis. Voilà désormais le président américain avec 2,5 milliards de dollars à sa disposition, une somme qui devrait permettre la construction d'environ 130 km de murs en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique. C'est une grande victoire pour la sécurité à la frontière et l'état de droit, s'est félicité Donald Trump sur Twitter. En février, il a déclaré l'urgence nationale à la frontière pour contourner le refus du Congrès de financer son mur. 6 mois plus tard, sa principale promesse de campagne enregistre l'un de ses rares succès.
C'est un tweet qui pourrait faire de gros dégâts dans les relations diplomatiques entre Washington et Paris. Donald Trump a dénoncé hier, je cite, la stupidité d'Emmanuel Macron après l'annonce d'une taxe sur les GAFA, les géants américains du numérique. En représailles, Trump menace de taxer le vin français, numéro 2 du marché des États-Unis, derrière l'Italie, et qui représente tout de même plus de 2 milliards de dollars d'exportation. Mais les vignerons français ne veulent pas céder à la panique. En fait, tout dépendra du niveau de la taxe qui serait mise en place, explique Jean-Marie Barrière, le président du CNIL. C'est le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique.
Quand M. Trump parle de taxer les vins français, ça nous fait fortement réagir, puisque c'est notre premier marché à l'export. On sait qu'il peut faire des taxes sur la valeur, et donc quand vous rajoutez une taxe de quelques pourcents sur la valeur d'un produit, une taxe de quelques pourcents sur des vins qui sont des vins haut de gamme n'a pratiquement pas d'effet. Une taxe de quelques pourcents sur des vins d'entrée de gamme ou de même gamme a des effets, notamment un effet, si vous voulez, lors de la mise en place de la taxe. Au bout de 2 ou 3 ans, l'effet tend à disparaître. Mais sur le moment, ça fait très mal au niveau des commandes et de la trésorerie des entreprises françaises. Et donc, nous avons peur qu'une taxation de plusieurs dizaines de pourcents, par exemple, serait dramatique pour l'ensemble de notre balance commerciale et notre débouché important que sont les États-Unis.
Un Brexit sans accord pourrait mener à une réunification de l'Irlande. C'est ce qu'assure le Premier ministre irlandais Leo Varadkar en réaction à son homologue britannique Boris Johnson, qui a annoncé vouloir quitter l'Union européenne avec ou sans accord. Une perspective qui va encourager les Irlandais, même modérés, à s'intéresser davantage à une Irlande unifiée, estime Leo Varadkar. De son côté, Boris Johnson est à Manchester, aujourd'hui dans le nord de l'Angleterre. Il doit dévoiler ses priorités en matière de politique intérieure et selon les observateurs, le Premier ministre britannique pourrait aussi convoquer des nouvelles élections dans l'espoir d'élargir sa majorité au Parlement. En France, à Villeurbanne, un couple homosexuel a été violemment pris à partie par une vingtaine d'individus la nuit dernière. Le couple se promenait main dans la main lorsque plusieurs individus les ont insultés et poursuivis. Le couple s'est réfugié dans un hall d'immeuble et a appelé la police, mais au moment de ressortir, une vingtaine d'individus les attendaient, armés de barres de fer et de casques de moto. La Tunisie, en deuil, enterre son président. Le pays rend un hommage national à son premier président élu démocratiquement au suffrage universel. Béji Caïd Essebsi, décédé cette semaine à l'âge de 92 ans. Les obsèques ont lieu à Tunis en présence de plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron, et en présence également d'une foule de Tunisiens, Michel Picard.
Le fils du président défunt a appelé le peuple entier à rendre un dernier hommage à Béji Caïd Essebsi et la foule est au rendez-vous. Massée d'abord le long de la vingtaine de kilomètres qu'emprunte le cortège entre le palais de Carthage et Tunis, puis au cimetière où Amila et Abiba sont en pleurs.
Tout notre père, Notre papa nous trouve quelqu'un comme lui. Je suis triste. Je sentais que la Tunisie est vide.
Une émotion palpable parmi les anonymes, à l'image de Sarah, une rose à la main.
Monsieur le Belge, c'est le père de toute la Tunisie. Hein. Il n'y a pas de mots qu'on peut dire ou expliquer.
Bien sûr, la présence du président français Emmanuel Macron est un signe fort, remarqué par les Tunisiens, qu'ils n'oublieront pas. Si Mohamed, enveloppé dans un drapeau tunisien.
J'ai le cœur gros, bien qu'on n'a pas été toujours sur la même voie. Mais c'est mon président, c'est mon pays, c'est mon drapeau. Nous avons toujours été privilégiés avec la France, parce que d'abord, on a une culture réciproque.
Le deuil national de 7 jours se poursuit dans le pays pour saluer la mémoire du premier président tunisien démocratiquement élu.
Et en Tunisie, une élection présidentielle anticipée pourrait avoir lieu dès le 15 septembre prochain. Une nouvelle journée sous haute tension à Hong Kong, malgré l'interdiction par la police d'un rassemblement d'opposants au régime. Des milliers de personnes manifestent en ce moment même dans une commune rurale, à l'endroit même où des opposants ont été violemment battus le week-end dernier par des hommes soupçonnés d'appartenir à un groupe mafieux. L'ancienne colonie britannique est plongée dans la pire crise politique de son histoire. Un mouvement est parti du rejet d'un projet de loi désormais suspendu visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Il s'est désormais élargi à des revendications plus larges comme l'instauration du suffrage universel. Manifestation d'opposants également en Russie aujourd'hui. À Moscou, des candidats indépendants ont été empêchés de participer à l'élection locale prévue en septembre prochain, déclenchant la colère de l'opposition russe. Décidée à braver l'interdiction de manifester, l'opposition a appelé à une mobilisation massive dans les rues de la capitale pour ne pas, une fois de plus, être écartée d'une échéance électorale qu'elle estime importante. À Moscou, Léo Vialgiro.
Une échéance à laquelle l'opposition s'était préparée depuis longtemps et pour laquelle elle espérait surfer sur un mécontentement grandissant de la population russe, comme nous l'explique Ivan Jdanov, l'un des candidats de l'opposition à ces élections.
Les représentants du pouvoir sont si impopulaires que n'importe quel candidat indépendant qui se déclarerait contre Russie unie et contre le pouvoir en place aurait des chances sérieuses de gagner les élections.
Mais le 14 juillet dernier, la commission électorale a invalidé la candidature d'Ivan Jdanov, en même temps que celle de pratiquement tous ses camarades, alors que dans le même temps, elle validait tous les dossiers des candidats pro-Kremlin. Depuis, les opposants multiplient les recours, appellent à descendre dans la rue. Le 20 juin, c'est plus de 20 000 personnes qui ont défilé dans le centre de Moscou pour exiger la participation de leurs candidats aux élections. Pour l'instant, sans résultat. En fait, c'est même le contraire qui s'est produit. Arrestations, inculpations pour entrave au bon fonctionnement des commissions électorales, perquisitions dans leur QG de campagne et à leur domicile, interrogatoires nocturnes, pression sur leurs familles. L'arsenal répressif mobilisé contre les candidats d'opposition est vraiment d'une ampleur inédite. Un but, décourager la participation à la manifestation de cet après-midi. Mais malgré les pressions, les opposants comptent bien maintenir leur mobilisation. Et le nombre de manifestants qui descendront aujourd'hui dans les rues de Moscou en dira très long sur la capacité de l'opposition russe à mobiliser et peut-être à faire reculer les autorités.
Et on l'apprend à l'instant, plusieurs dizaines d'arrestations déjà à Moscou en marge de cette manifestation donc d'opposants russes. La canicule a définitivement laissé la place à la pluie et aux orages. 22 départements toujours en vigilance orange pour des risques d'orages sur la façade est du pays, des Ardennes à la Drôme, en passant par le Jura, partout ailleurs du soleil, mais parfois quelques nuages. Température cet après-midi de 19 degrés dans le nord à 28 degrés en Méditerranée. C'est la fin de ce journal, une édition préparée avec Emmanuel Faucillon à la technique.